la dernière partie de la grande table, Raphaël Bourgois.
Oui, Antoine, nous allons parler accélérationnisme. C'est le nom un peu barbare de cette idée présentée dans un manifeste publié en 2013 par deux jeunes universitaires de la London School of Economics, Nick Schnischek et Alex Williams. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de Nick Schnischek, qui s'écrit de manière assez compliquée. Voilà, leur point de départ, une certaine déception face à la pensée critique qui ne permettait plus, selon eux, de saisir la crise du monde contemporain et de proposer une sortie du capitalisme. Il parle d'expérience après avoir participé à Occupy London et constaté son échec, un échec dû, selon eux, à une gauche trop tournée vers son passé. Le manifeste accélérationniste propose donc d'embrasser pleinement les innovations technologiques plutôt que d'y résister. Le débat a pris très vite et de manière très vive. En France, c'est l'intellectuel Yves Citon qui l'a traduit pour la première fois dans la revue Multitude. Aujourd'hui, ce sont les presses universitaires de France qui publient dans la collection Perspectives critiques un ensemble de textes autour de l'accélérationnisme qui se décline, hein, l'accélérationnisme, accélérer la politique, le capitalisme, la révolution, l'humanité, la raison, l'écologie, accélérer le féminisme. Nous avons donc proposé à Laurent de Sutter, professeur de théorie du droit à l'Université libre de Bruxelles et directeur de la collection Perspectives critiques qui publie Accélération, de venir nous éclairer. Bonjour Laurent de Sutter.
Bonjour.
Et merci d'être parmi nous et
avec plaisir.
Pour discuter avec vous, venir un petit peu essayer de cerner, de cadrer cette discussion qui risque d'être à la fois théorique mais ancrée, hein, on espère, dans une forme de réalité politique. On a proposé au philosophe Mathieu Pot-Bonneville. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bien connu de nos auditeurs puisque vous êtes un habitué de la grande table. Alors, à un moment, Laurent de Sutter, où finalement on nous invite plutôt à décélérer, hein, les mouvements slow food, slow science, slow journalisme, ça se décline comme ça, dans beaucoup de domaines. Pourquoi est-ce qu'il faudrait accélérer ?
Parce qu'il faut faire la distinction entre accélération et vitesse. C'est pas du tout la même chose. Ce qu'ont proposé Schnitzek et Williams dans leur manifeste, c'est une prise en considération forte de la condition contemporaine et de la manière dont celle-ci se déploie dans toute une série de régimes de vitesse, hein, toute une série de domaines qui fait que la vie devient de plus en plus invivable, de plus en plus urgentifiée. Hein, je sais pas très bien comment il faut dire ça. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que cette vitesse-là est une vitesse qui effectivement nous tue que la meilleure manière de sortir de cette espèce de pression à la vitesse, c'est pas précisément de nous retirer dans une espèce dans un champ du côté des Cévennes et se mettre à élever des moutons et de voilà, etc. Quelque chose qui est une robinsonnade qui est entretenue
pas la décroissance, donc.
C'est la décroissance dans un certain cadre, mais ce n'est pas l'imaginaire, si vous voulez, l'imaginaire qui l'entoure, l'imaginaire d'un retour à la terre, l'imaginaire un peu rousseauiste, si vous voulez, d'un retour à une espèce de nature qui serait nourricière et que bon. Le fait est que nous vivons sur une planète qui comporte 7 milliards de personnes dans un système qui est un système économique et politique qui implique une logistique considérable pour faire vivre les gens, pour les faire manger, etc., etc. On ne peut pas simplement effacer d'un revers de la main l'existence industrielle du monde, l'existence logistique du monde, le fait qu'on a besoin de camions qui déplacent d'un endroit à un autre de la nourriture. Nous ne pouvons pas tous cultiver notre champ, etc. C'est juste impossible. Et donc cette condition-là, c'est une condition avec laquelle on n'est pas obligé de l'aimer, cette condition-là, mais par contre, c'est une condition qu'il faut accepter. Et ce que eux proposent après, c'est de dire, à l'intérieur de cette condition, qui est feuilletée, variable, bon, il y a des points que l'on peut saisir, qui sont des points riches de potentialité, et ce sont ces points-là qu'il s'agit d'accélérer.
Alors ça, c'est pour l'idée. Il y a aussi un contexte, celui du succès assez rapide, puisque ce texte est publié, je crois, sur un site internet, enfin dans une revue en ligne d'abord, et ça a pris, on va dire, très très rapidement, et beaucoup d'intellectuels s'en sont emparés, jusqu'à ce qui est même un débat, je crois, organisé en France au Centre Pompidou. Comment vous expliquez ce succès, Laurent de Sutter?
Je l'explique d'abord par l'effet de scandale qui a été produit par ce texte. C'est-à-dire que les différentes traditions gauchistes contemporaines se caractérisent en France, mais pas seulement en France, par une tentation très forte à la résistance. C'est une tentation très forte à dire on n'est pas d'accord, ce qui est première chose. Et cette résistance prend ensuite la forme d'un repli, si vous voulez, dans des positions qui sont des positions qui ont tendance à dire non, soit retour à une forme d'équilibre post-fordiste, keynésien, soit effectivement à des replis franchement rousseauistes, etc., etc. C'est une très forte tentation, qui est une tentation qui est très confortable parce qu'elle permet effectivement de se retirer des problèmes et de pouvoir perpétuellement recommencer la stratégie de la résistance et perpétuellement pouvoir reformuler les dénonciations. Ici, il s'agit d'une position qui est une position de gauche, de gauche radicale, mais qui refuse cette espèce de mouvement de méfiance ou cette espèce de mouvement de résistance pour dire c'est une inversion de regard qu'il faut produire, une inversion de regard qui nous permette d'aller vers des possibles qui sont encore vraiment à formuler. De ce point de vue-là, c'est une proposition, si vous voulez, qui est une proposition expérimentale. C'est une véritable proposition, c'est pas juste une position.
Alors, il faut peut-être un peu plus concret quand même. C'est possible, vous parlez des points sur lesquels il faudrait accélérer. On comprend bien que votre visée est de dépasser le capitalisme, ou moins de récupérer en partie ou de le réorienter d'une certaine façon plutôt que de le combattre. Mais il y a deux questions essentielles. D'abord, comment on peut concrètement effectivement appuyer sur l'accélérateur, où se trouve la pédale d'accélération, et d'autre part, est-ce que vous avez le sentiment que cette possibilité même théorique de dépasser le capitalisme en accélérant plus vite que lui est réaliste relativement au fait que malgré tout le capitaliste se défend de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui peut le contrarier, et que donc si vous ne l'attaquez pas directement, est-ce que vous allez pouvoir tout de même le subvertir?
Laurent Sutter.
Oui, alors le texte, c'est un texte qui est, c'est évidemment pas mon texte, je l'ai édité parce que je trouve que c'est un texte qui est un texte très important dans pour la compréhension des débats contemporains du côté de la gauche, mais à l'intérieur effectivement de ce texte et ses propositions, ce qui m'intéresse le plus, c'est de fait la dimension stratégique qui est impliquée. C'est-à-dire le fait que, avant de commencer à causer de, effectivement, transformation, où est-ce que l'on va appuyer? Effectivement, on va appuyer du côté de l'écologie, évidemment, on va appuyer du côté des technologies post-capitalistes, etc., etc. Toute une série de chantiers que Snitschek et Williams, du reste, sont en train d'explorer dans leurs publications ultérieures, dans les livres qu'ils sont en train de publier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cela. C'est le type de positionnement stratégique et le type de regard que l'on va développer en matière de politique de gauche. Et ce qui est le plus important pour moi dans le manifeste de ce point de vue-là, c'est les propositions sur les modes d'organisation de la gauche. Plutôt qu'une espèce de fragmentation en groupuscules, tentant chacun dans leur coin de fabriquer quelque chose avec des luttes intestines, etc., etc. Pourquoi tout simplement pas prendre modèle de ce qu'ont fait les néolibéraux entre 1935 et 1975, c'est-à-dire les 40 ans qu'ils ont pris pour arriver au pouvoir, c'est-à-dire cette espèce de construction stratégique extrêmement secrète, extrêmement discrète par think tank, relations, tissus de réseaux, etc., etc., qui leur ont permis finalement de gagner les gens décisifs à leur cause de telle sorte que leur idéologie ait réussi à triompher. C'est un exemple parmi d'autres de réflexions stratégiques ou de qui sont dans le manifeste et qui moi me paraissent très parlantes.
Quand même juste un point pour essayer d'être concret. À quel moment on va dépasser le capitalisme au point de le réorienter? Vous pouvez nous faire un arrêt sur image d'une situation concrète où les choses seraient transformées par l'accélération?
Je pense moi que l'intérêt du texte est un intérêt théorique. Le concret, ce sera, si vous voulez, comme toute proposition, le concret, ce sera à nous à le fabriquer. Moi, j'ai pas de plan de bataille, et du reste, Snitschek et Williams le proposent pas. Ça commence d'abord par une transformation d'éthos, vraiment une transformation de position mentale par rapport au réel. Je crois que c'est là le point le plus fort.
Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, c'est intéressant de parler à la fois de stratégie et de scandale, parce que je crois que la question n'est pas de savoir si ce livre est une provocation, c'en est évidemment une. C'est le propre d'un manifeste que d'être une provocation, mais de quel genre de provocation il s'agit. En un sens, la position de Snitschek et Williams, c'est le retour d'une tendance assez ancienne et devenue assez souterraine dans la pensée de la gauche radicale, qui est cette tendance qu'on trouvait chez Marx. Lorsque Marx s'opposait aux socialistes utopiques, qu'il disait non, l'avenir n'est pas à imaginer comme un ailleurs complètement différent du présent. L'avenir révolutionnaire, c'est cette tendance qui travaille déjà de l'intérieur le présent et la dynamique du capitalisme. C'était que, au fond, la force la plus dissolvante, la plus radicalement corrosive vis-à-vis des vieilles identités, des vieilles religions, des vieux ancrages, etc., c'est le capitalisme lui-même, et que c'est de cette force-là qu'il faut faire quelque chose. Donc il y a le retour de cette affaire-là. Et le retour de cette affaire-là, j'ai l'impression que le texte le fait jouer sur deux fronts. Il y a cette affaire d'éthos sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne tout à l'heure, cette manière de dire à la gauche, cessez donc d'être mélancolique, allez plus vite plutôt que d'essayer de ralentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se le demander. Et puis il y a autre chose qui est très simplement une manière de dire toi-même à un discours ambiant pour lequel le problème c'est que la société est bloquée, que malheureusement il faudrait accélérer le rythme des réformes, que malheureusement, etc. Au fond, il y a un peu dans cette affaire-là la même opération que dans la critique du néolibéralisme au début des années 2000, quand on disait le néolibéralisme nous reproche d'être une idéologie, mais c'est une idéologie. Cette fois-ci, c'est le néolibéralisme nous reproche de ne pas aller assez vite, mais c'est lui qui bloque. C'est lui qui ne cesse de bloquer, de ralentir, d'arrêter, de freiner tout un ensemble de processus qu'il nous faut, au contraire, accélérer. Je crois que c'est... Alors du coup, ça produit un texte dont les effets sont, à mon avis, très ambigus. Moi, je suis très partagé par rapport à cette position politique-là, mais qui fait bouger le paysage, évidemment.
Martin, Laurent Sutter, pardon.
Mais précisément, je pense que il ne s'agit pas d'une position. Il s'agit véritablement d'une proposition. Et la distinction entre position et proposition, pour moi, dans cette histoire, est vraiment très, 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 très importante. C'est-à-dire, comme toute proposition, ici, en l'occurrence, une proposition qui s'inscrit dans la tradition avant-gardiste, très 20e siècle du manifeste, en soi, ça n'a pas de valeur. Ça n'a de valeur que dans la possibilité qu'il nous est laissé de produire les conséquences qui lui donneront rétrospectivement sa valeur. C'est un texte dont on peut très bien ne rien faire, et puis voilà, il aura existé un bref moment, ou bien il nous fait faire quelque chose. Et moi, si j'ai voulu éditer ce livre et le faire intervenir ici, c'est dans l'idée que ça puisse donner deux, trois idées à deux, trois personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi, est déjà important. Après, vous avez tout à fait raison de pointer quelque chose que effectivement Snitchek et Williams disent au début du manifeste, c'est-à-dire que le point d'accusation numéro un adressé à la condition néolibérale, c'est son ralentissement. C'est le fait que depuis, et c'est un point qui a été adressé par...
En quoi ça bloque le capitalisme, par exemple?
Eh bien, si vous examinez l'histoire de l'innovation, par exemple scientifique et technologique, depuis disons à la fin des années 60, vous examinez toute une série de processus qui sont des processus de ralentissement de l'innovation pour en arriver à ce que l'innovation scientifique et technologique ne soit plus finalement que une nouvelle application que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Si vous voulez, des micro-innovations.
Avant d'en arriver là, on a développé les smartphones, développé Internet.
La technologie d'Internet de Candatel, la technologie de la téléphonie portable de Candatel, les avions, de combien de kilomètres heure ont-ils accéléré depuis les années 50, la conquête spatiale a été complètement arrêtée, etc. Si vous voulez, il y a toute une série d'une part d'utopie, mais d'autre part effectivement d'innovation réelle. Et on a cru tout un moment que cela pourrait aboutir à des innovations dans la vie des gens, que ce soit en termes de déplacement, que ce soit en termes de prolongement de la vie, que ce soit en termes de toute une série de choses. Mais toutes ces innovations se sont transformées en petites variables marketisables, avec chaque fois des espèces de, si vous voulez, dès qu'on a une micro-innovation, cette micro-innovation peut devenir un produit qui nous fait effectivement changer de téléphone, qui nous fait acheter le dernier accessoire, etc., etc. Mais plus de processus, peut-être utopique ou peut-être prométhéen, mais enfin plus de processus d'innovation radicale. Et donc ce que voudraient relancer Snitchek et Williams de ce point de vue-là, c'est cela.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Et on parle aujourd'hui de accélération avec un point d'exclamation, c'est le titre de cet essai collectif, de cet ensemble de textes réunis sous la direction de Laurent Sutter, qui est notre invité aux presses universitaires de France, autour donc de ce manifeste accélérationniste d'Alex William et Nick Schnitzsteck. Je vais peut-être essayer de réussir à le dire avant la fin de l'émission. Alors c'est très frappant dans ce que vous dites, Laurent Sutter, c'est que tout ça s'inscrit quand même malgré tout dans des courants de pensée, des courants philosophiques qui existent, hein, et même des courants économiques. Dans ce que vous venez de dire, je pense à l'économiste américain Douglas Gordon qui dit qu'il n'y a pas d'innovation radicale d'innovation radicale aujourd'hui de la technologie, et que donc toutes les promesses, évidemment, toutes les promesses en termes d'emploi, en termes de changement de travail, finalement avortent, et c'est peut-être pour ça. Mais je pense aussi, évidemment, je vois que Mathieu Pottebeneville est venu avec le livre d'Art Montrosa, ce sociologue sociologue allemand qui lui a interrogé plutôt, est allé contre cette idée d'accélération, en tout cas a interrogé sa vertu, enfin son aspect négatif, n'est-ce pas Mathieu?
Alors c'est compliqué parce que justement je regardais ce livre d'Hartmut Rosa qui s'appelle Accélération, qui est un diagnostic sur l'accélération des sociétés contemporaines, me disait voilà une belle contradiction. Et si donc on entre dans les détails, c'est moins net. Par exemple, Hartmut Rosa cite une lycéenne de 17 ans qui répondait ceci à la question « Quels sont les principaux problèmes des jeunes d'aujourd'hui ?» Elle répondait « Aucun espoir pour l'avenir et, je cite, « une société à la fois figée et frénétique ». Dans laquelle chacun ne pense qu'à soi et où s'en cède, on ne trouve que difficilement sa place. Je trouve que ce figé et frénétique est assez proche, en fait, de ce que Schnirschek et Williams diagnostiquent. En vous écoutant, je pensais aux blockbusters contemporains, à ce qui se passe au cinéma. On en est, je crois, au quatrième reboot de Spider-Man. Autrement dit, les versions de Spider-Man envahissent les écrans à une vitesse accélérée, certes, mais dans une répétition absolument, d'une monotonie absolument accablante sur un personnage qui date des années 50, je pense.
Vous avez publié un livre sur les super-héros il n'y a pas longtemps, Laurent de Suterne.
Oui, tout à fait.
Universitaire de France. Donc, sur ce que vient de dire Mathieu Poddenville, qui fait penser, puisqu'on en est à cadrer un petit peu intellectuellement ce manifeste accélérationniste, à l'expression de Paul Virilio qui parlait d'immobilité fulgurante. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette idée qui est, on voit que tout s'accélère et pourtant rien ne change.
Complètement. Et ça va jusque à une accélération, là pour le coup, au mauvais sens du terme, sidérante de, par exemple, du travail. Vous connaissez peut-être ce livre de Jonathan Crary qui s'appelle 24/7, 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans lequel il décrit cette condition du travail qui est devenue la nôtre, où la dernière frontière que le néolibéralisme aimerait bien briser, celle du sommeil. Parce que le sommeil, c'est un grand moment d'improductivité quand même. Alors que dans toutes les utopies qui ont été des utopies libérales, la question a toujours été celle de la réduction de ce travail, réduction par l'adjonction technologique, réduction par l'ingénierie sociale, etc., etc., etc. Et c'est un autre symptôme, je pense, de cette espèce de contradiction que Hartmut Rosa a pointé, même si Hartmut Rosa, effectivement, est une des cibles du manifeste accélérationniste, en ceci qu'il représente tout de même quelque chose comme effectivement une tradition critique, héritée de l'école de Francfort, relativement bien installée dans son confort universitaire. Mais sur ce diagnostic de cette jeune fille, je pense qu'effectivement il y a un point de convergence très fort.
Antoine, merci.
Oui, je voudrais revenir sur cette utopie et je me demandais de quelle manière elle ne s'associait pas aussi à une forme de pensée libérale, c'est-à-dire qu'il y aurait une association entre gauche radicale et libérale. Je cite par exemple le point 13 du manifeste. Il faut abandonner le privilège exagéré actuellement accordé à la démocratie comme processus, la fétichisation de l'ouverture, de l'horizontalité, de l'inclusion qui caractérise une large part de la gauche radicale d'aujourd'hui, l'avoue à l'inefficacité, le secret, la verticalité et l'exclusion ont tous également leur place dans une action effective. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme
où Nuit Debout,
on a le sentiment que l'on veut rétablir de la verticalité aussi dans cette société ?
Tout à fait. Alors, verticalité, pas du tout au sens, évidemment, d'une verticalité transcendante ou d'un chef qui débarquerait pour... Mais il y a l'idée, par rapport à cette idée de, effectivement, démocratie comme processus, qui est une idée qui est une expression qui nécessiterait beaucoup de déploiement, parce que ça peut concerner aussi bien la social-démocratie à la Jürgen Habermas que effectivement les formes d'auto-organisation. Il y a l'idée que l'organisation, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et que c'est les formes d'organisation, mais alors du coup l'invention des formes d'organisation, qui permettront aux positions de produire des effets. Je veux dire, c'est pas juste
le rassemblement. Mais en quoi la technologie va permettre une meilleure forme d'organisation? C'est ça un peu la jonction qui va se faire.
Non, la technologie est un des lieux dans lesquels il s'agit d'intervenir, mais c'est évidemment pas le seul. Tout à l'heure, pendant le journal, on parlait des médias. La question de la constitution d'un espace médiatique, c'est quelque chose qui est quand même très très important. La constitution très matérielle de nouvelles formes de mise en commun ou de mise plutôt en contact avec des populations qui ont été écartées du jeu politique, la reconstitution d'un tissu qui est un tissu véritablement relationnel avec toute une série de personnes qui aujourd'hui savent plus très bien ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, qui se retirent du jeu politique, ça fait partie des choses que le manifeste tente de défendre.
Merci. Alors,
Effectivement, je veux dire, avant finalement, pour revenir à cette question de travail qui me semble aussi centrale et qui est très parlante, effectivement, les utopies de libération du travail, on devait travailler moins, finalement, on travaille jour et nuit alors que le progrès avance. C'est ça l'équation qu'il faut résoudre autrement que la manière dont on la résout.
Parce que le progrès n'avance pas, ouais, justement.
Simplement, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça s'est transformé comme ça, peut-être, pour changer cette orientation.
Ah oui, non, super. Bien sûr, l'histoire de la transformation de la condition du travail, l'histoire de du ralentissement du progrès, ça fait l'objet de recherches qui sont quand même des recherches extrêmement nombreuses et allant dans tous sens. On peut penser ici en France au philosophe Bernard Stiegler qui en a fait le sujet principal de ces derniers travaux. Donc les raisons, le diagnostic, si vous voulez, n'est pas le problème. Je pense que tout le monde est d'accord, si vous voulez, là-dessus, et tout le monde est d'accord pour comprendre la manière dont cette opération très très particulière qui s'est réalisée à la fin des années 70 et au début des années 80 et qui a pris le nom de néolibéralisme s'est emparée effectivement des existences. Ça, je pense que c'est relativement clair.
Oui, je voudrais qu'on vienne à un autre lieu. Qu'explore Schneerscheck et Williams, et Yves Citon dans la suite du dossier, du lourd dossier, manière de montrer aussi que les choses s'accélèrent. Le débat s'est violemment accéléré, et ce manifeste a eu une fonction d'accélérateur. Bref, un autre lieu qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de l'écologie. Et de la manière dont ce motif de l'accélération peut jouer pour produire ses effets dans le champ de la réflexion et de l'action écologique. C'est très ambigu, je trouve, parce que d'un côté, en effet, le champ écologique est un de ceux où, plus clairement, le capitalisme contemporain est une force de ralentissement. Si on pense à la transition énergétique, il est très frappant de voir comment cette transition est méthodiquement freinée, ralentie, bloquée par des forces qui ont tout intérêt à ce que les choses demeurent en l'état, pour toute une série de raisons qui vont du profit au maintien du complexe industriel, etc. Donc il y a effectivement un ralentissement écologique propre au capitalisme contemporain. Et en même temps, le champ écologique est aussi un de ceux où, à mon avis, c'est le plus compliqué de se dire accélérationniste, parce qu'il y a dans cet éthos de l'accélération un amour de la productivité, un amour de la construction, une rêverie de conquête spatiale, c'est quand même dans le texte aussi, qui font violence à ce qui se passe aujourd'hui, enfin à la finitude des ressources. À la fois, on a l'impression que dans l'écologie, effectivement, ça ralentit, il faudrait accélérer. En même temps, se dire accélérateur dans le champ écologique, c'est peut-être oublier qu'il y a une finitude de la planète qu'il faudrait prendre en compte.
C'est tout à fait exact, c'est tout à fait exact. Je crois que la dimension la plus utopique du manifeste, mais aussi de ce point de vue-là la plus sollicitante pour nous, relève précisément de la possibilité qu'il nous donne de penser en dehors des différents facteurs que vous évoquez. Par exemple, la question de la finitude des ressources, c'est un fait. Mais est-ce que ce fait ne devrait pas être précisément une source ou une possibilité ou une occasion d'inventer des formes, d'extraction de ces ressources qui seraient des formes moins gaspilleuses, moins gourmandes, plus efficaces, plutôt que ces formes, on va chercher du gaz de schiste, l'exploitation continuée du pétrole, etc. etc., etc. Là aussi, je pense que la question de l'imagination technologique, et pas juste technologique, du reste, l'imagination sociale qui va avec, est davantage sollicité que freiné. Donc on peut le voir de manière méfiante en disant oui, mais comment est-ce qu'on va faire, etc. etc. Ben, la question, c'est, il s'agit de renverser cette question, de dire mais précisément comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que l'on va pouvoir inventer pour pouvoir sortir des paramètres techniques dans lesquels nous sommes coincés de manière absolument irrémédiable.
D'accord. Monsieur. Donc là, dans ce cas-là, l'accélération veut dire réfléchir plus vite. Parce qu'une objection qu'on pourrait faire, c'est, et je suis certain qu'elle leur a été faite, c'est de dire, au fond, cet accélérationnisme, c'est l'un des avatars tardifs de cette idée qu'il faut épouser la modernité, qu'épouser sa modernité, c'est épouser sa vitesse, que cet idéal-là porte un nom, il porte le nom de futurisme, au début du XXe siècle. Futurisme qui s'est compromis à la fois avec la modernité technologique et plus tard avec le fascisme. Je ne dis pas du tout ça en forme d'objection pour les textes, mais est-ce qu'on peut marquer le point de la différence? En quoi est-ce que l'accélérationnisme n'est pas ce genre de futurisme-là dont on a eu le sentiment quand même qu'il avait posé quelques problèmes?
Non, super.
Oui, et plus qu'un problème, effectivement. Mais je crois qu'ici, tout simplement, la différence se situe dans le fait que le manifeste n'est pas fasciné. Le futurisme était un mouvement qui était fasciné par les possibles de la technologie. Ici, on n'est pas fasciné. Snitchek et Williams sont plutôt inquiets. Ils disent il y a des possibles, mais ces possibles sont à regarder avec inquiétude, pas du tout comme quelque chose qui nous sauvera absolument. Simplement, il y a la possibilité que cela puisse nous aider, et cette possibilité doit être explorée plutôt qu'être laissée de côté. Je pense que c'est vraiment le point crucial, vraiment. Est-ce que on peut accepter de regarder les choses du côté du possible et explorer le possible plutôt que du côté de « Ah, mais on ne peut pas, mais c'est fini, c'est foutu, tout est compliqué, alors il faut faire attention. »
Laurent, tu as quand même quelque chose qui est absent de cette conversation qui vise avec ce manifeste accélérationniste à s'interroger comment la gauche pourrait regarder vers le futur et plus regarder vers le passé, comme vous le dites, comme vous l'expliquez depuis le début, c'est la question de la justice sociale finalement. C'est-à-dire, on a un peu le sentiment depuis quelques années qu'il y a un choix à faire entre modernité technologique et justice sociale, que les deux s'opposent. Est-ce qu'on arrive à réconcilier finalement les deux avec ce manifeste accélérationniste ?
Moi, je pense qu'on arrive tout à fait à le réconcilier parce que simplement, l'alternative que vous venez de rappeler est comme toutes les alternatives qui sont posées comme absolument naturelles, tout sauf naturelles. Ça relève de ce que Isabelle Stengers et Philippe Pignard, il y a quelques années, avaient appelé alternatives infernales. Et quand on vous propose une alternative infernale, c'est que forcément, il y a autre chose que les deux membres de cette alternative. Donc moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est un manifeste qui est optimiste. Et s'il y a une critique à lui formuler, à ce manifeste, une critique que j'accepterais volontiers, mais dont je trouve qu'elle est aussi un titre de noblesse, c'est précisément son optimisme considérable.
Ouais, je retombais sur cette phrase où notamment Marx est cité. On a l'impression qu'il y a vraiment une vraie affiliation à Marx. Marx en avait bien conscience. Le capitalisme ne saurait être l'agent d'une véritable accélération. Cette dimension idéologique, on a du mal quand même à la dégager. On essaye de prendre des... On part par le concret, on parle par la théorie. On a du mal finalement à replacer, recadrer ce qu'on appelle donc l'accélérationnisme dans les idéologies auxquelles on a l'habitude, auxquelles on se réfère habituellement.
Oui, vous avez tout à fait raison. Même si Snitchek et Williams ne se cachent pas du fait qu'ils appartiennent à la gauche radicale, la proposition qu'ils font est une proposition qui précisément, c'est de nouveau la distinction que je faisais tout à l'heure entre proposition et position, si vous voulez, par rapport à un ensemble de convictions de gauche qui définiraient la gauche comme cette chose qui formulerait une identité dans laquelle vous reconnaîtriez ou pas, ils proposent un processus exploratoire. Et vos positions, elles peuvent se transformer, vos positions, elles peuvent bouger. C'est pas vos positions qui vont déterminer l'intérêt du travail, c'est véritablement le processus expérimental auquel la proposition s'ouvre.
Le but, c'est quand même la libération, la désaliénation globale.
Complètement. Le but, c'est d'en finir avec cette chose qui est en train de nous tuer, de tuer la planète, voilà, et qui s'appelle effectivement capitalisme néolibéral.
Mathieu Pagmanville.
C'est une question par rapport à ça. C'est, au fond, j'essaie de cerner ce qui m'embarrasse avec ce qui n'est pas un mot d'ordre, mais en fait une invitation à se situer dans un certain registre ou sur un certain ton. En fait, cette accélération me fait un peu penser à Glenn Gould quand Deleuze dit de Glenn Gould qu'il accélère certaines partitions et que c'est l'accélération de ces partitions qui produit une expérience esthétique toute différente. Si j'essaie de situer mon trouble, je pense à l'exaspération que j'avais ressentie lorsqu'était paru un recueil d'entretien de Jacques Rancière qui portait pour titre « Et tant pis pour les gens fatigués ». Et lorsqu'était sorti ce bouquin, ça m'avait énervé, parce que je m'étais dit « Non, en fait, pas tant pis pour les gens fatigués ». Autrement dit, la fatigue, la difficulté à s'inscrire dans le mouvement général du monde, ce que peut avoir de minoritaire le caractère de fatigue, de laisser pour compte, d'improductivité, en fait. Tout cela m'intéresse et tout cela, l'attention à tout cela semble faire partie d'une conscience de gauche. Et j'ai l'impression que, au moins, ce texte met vraiment le doigt sur un clivage. C'est-à-dire qu'il y a cette gauche qui dit « allons plus vite », et puis il y a cette autre vibration qui consiste à dire « attention ». Prêtons attention à ceux qui, justement, ne peuvent pas aller plus vite, mais qui boitillent ou qui désespèrent de sortir de leurs conditions, en fait.
Laurent Tuter.
Oui, à nouveau, je vois pas de... À nouveau, après, c'est ma lecture. Hein, je pense que, voilà... c'est une lecture évidemment très favorable. J'édite le livre, j'ai envie qu'il soit lu. Moi, je crois qu'à nouveau, c'est pas contradictoire. Je crois qu'il est tout à fait possible, et je crois que le manifeste laisse ça ouvert. Il est possible d'imaginer cette forme de Est-ce que ce serait une forme de sollicitude que vous évoquez, enfin une forme d'un rapport effectivement à cette fatigue, et d'autre part des principes d'organisation pour ceux qui n'ont pas envie, qui n'ont plus envie, ou qui ne sont pas fatigués, ou que sais-je, de construire de leur côté quelque chose qui pourrait emporter tout le monde vers des lendemains peut-être un peu moins pourris.
Laurent de Schutter, tout ce que vous dites depuis le début de l'émission me fait dire que ce manifeste à l'accélérationniste, il est quand même plus proche de Macron que Nuit Debout. Opposé réaction, voilà, vous nous dites, il y a les réactionnaires et il y a les progressistes. Vous nous dites, il faut plus de verticalité et moins d'horizontalité. Excusez-moi, mais c'est exactement le discours que tient aujourd'hui notre ministre de l'économie qui se positionne ainsi, à gauche.
Alors là, vous m'en bouchez un coin quand même.
Est-ce qu'il l'a lu, le manifeste?
J'en ai aucune idée, faudra lui demander.
Oui, on lui demandera. Non, mais je sais que c'est un peu... puisqu'on est dans la provocation, je...
Pardon, Emmanuel Macron qui se revendique parfois de Paul Ricoeur, qui était plutôt un éthicien de la finitude, pour le coup. Qui était plutôt quelqu'un qui insistait sur le caractère
de finitude. On va très très loin dans la pensée théorique d'Emmanuel Macron. Moi, c'était plutôt sur un positionnement politique. C'est-à-dire, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, ce que propose ce manifeste accélérationniste, il est... proposé dans le champ politique, dans le champ de la discussion politique, plutôt par une gauche sociale-libérale, j'ai envie de dire.
Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça? Regardez un petit peu les...
En tout cas dans le discours.
Dans le discours, la gauche sociale-libérale devrait commencer par dire « fuck l'austérité », par exemple, comme principe même de ralentissement général qui pourrit les vies. Je doute que Macron tienne ce genre de discours. Même chose pour le contrôle des existences, qui est en train pourtant d'être...
L'accélération est un remède à l'austérité, par exemple?
Non, je pense que l'accélération n'est possible, ou plutôt, non, je m'exprime mal ici, l'accélération est une manière de dire que l'austérité comme principe de ralentissement fait partie des choses dont on doit se torcher les fesses. Vraiment, ça n'a aucun sens, l'austérité, à aucun point de vue. Aussi bien du point de vue d'ailleurs de l'économie de base que du point de vue d'un devenir de la société quel qu'il soit. L'austérité est précisément ce qui est en train de nous tuer, c'est ce qui est en train de détruire l'innovation quelle qu'elle soit, c'est ce qui est en train de contribuer d'une certaine manière à la destruction de la planète dont vous parliez, Mathieu Pot-Bonneville.
Ça accélère beaucoup l'accélérationnisme, parce qu'on a l'impression que c'est un texte qui date d'il y a quoi, 2 ans ou 2 ans et demi, et qu'il devient un peu l'idée neuve qui surgit dans les blocages d'aujourd'hui, blocage sur le repli, blocage sur le manque de perspective. Comment vous percevez ce climat intellectuel et politique?
Quelque part, je trouve très surprenant que ce texte ait suscité tant de commentaires, dans la mesure où ça devrait, enfin dans mon esprit en tout cas, ça devrait être le réflexe intellectuel de base. C'est-à-dire qu'on soit obligé de redire ce genre de choses implique tout de même que nous sommes arrivés dans un état de déréliction théorique et politique extrêmement grave. Que dire, hey les gars, demain ça existe, on peut faire un peu mieux. Plutôt qu'essayer d'empêcher que le bateau coule complètement, c'est quand même quelque chose de, enfin, je trouve infiniment triste. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de profondément réjouissant, d'ailleurs, dans l'écriture de ce texte, en même temps que d'angoissant par rapport au présent, quoi.
Laurent Tuter, comme chaque jour, on vous a demandé de choisir une musique, et vous avez choisi ça. Vous a demandé à vous, comme à chaque jour, on demande à nos invités, on ne vous demande pas à vous tous les jours, Laurent Tuter, et heureusement, là, qu'est-ce qu'on écoute?
On écoute Oketus de Louis Andriessen, qui est un compositeur post-minimaliste hollandais.
Là, on a pris le mouvement, parce que ça commence de manière très répétitive.
C'est un hoquet véritable, qui prend de plus en plus de force et de forme jusqu'à vous rendre un petit peu cinglé jusqu'à avoir un effet physique très très profond sur votre personne, comme toujours d'ailleurs avec la musique minimaliste ou post-minimaliste. Vous connaissez Steve Reich, Philip Glass, etc. Et ce qui m'intéresse aussi chez Andriessen, c'est que sa musique ici, j'aurais pu prendre un autre morceau. Cette musique est profondément ancrée précisément dans une conception politique du monde.
Merci beaucoup Laurent de Sutter. Il faut lire Accélération avec un point d'exclamation aux presses universitaires de France. La Grande Table, c'est terminé. La Grande Table, c'est Caroline Brouet, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et notre stagiaire Lucie Aubourg. À la réalisation aujourd'hui, c'était Philippe Baudouin, assisté de Léonore Félix, et à la technique, Théo Gomard.